extrêmement important. Non, on n'a plus le temps. Ah non, c'est fini. C'est fini parce qu'on passe à Alain. Maire d'une petite commune qui résiste à l'état de urbain, tant bien que mal, mais si, si, plutôt bien que mal, et qui va nous parler d'un problème un peu précis qui est sa nouvelle station d'épuration des eaux domestiques qui a été inaugurée il y a un an, hein, et qui est une petite merveille, et donc une solution pour les petits villages de Garrigues pour essayer de ne pas faire des usines à gaz et quand même de répondre aux exigences réglementaires de l'épuration des eaux domestiques.
Merci Jean-Paul. Jean-Paul est vraiment un très bon organisateur puisque j'arrive en fin de journée et que je vais parler d'un sujet qui est effectivement un peu en bout de course, le traitement des eaux usées. Je vais aborder ce... Bon, Jean-Paul l'a dit, c'est une toute petite commune, hein, 300 habitants, un relativement grand territoire, hein, 2400 hectares, et ces 2400 hectares sont essentiellement de la Garrigue, ou tout au moins de l'ex-Garrigue, un territoire qui a été fortement, historiquement, sollicité par les bousquetiers, les charbonniers et les troupeaux. Et ce village, bien qu'étant à 16 km de Montpellier, garde une dimension rurale puisqu'il n'y a seulement que 2% de la superficie du territoire qui est en zone constructible. Et ça veut dire également, 2% du territoire, ça veut dire effectivement pas beaucoup de revenus, hein, des finances publiques limitées, et puis forcément des questionnements, des réflexions et au quotidien sur le pourquoi de rester comme ça, pourquoi de vouloir conserver ces dimensions rurales. Et donc chaque engagement, chaque acte politique, hein, forcément, doit s'imprégner de cette obligation, de ce questionnement. Et c'est un peu l'exemple, c'est que même l'assainissement, finalement, était pour nous un moyen d'exprimer cette ruralité qui se veut encore existante et pourquoi pas en devenir d'ailleurs. Et donc, ça a été un élément de démonstratif. Alors, il faut dire aussi que ce village s'était inscrit de longue date dans des pratiques. Qui à une époque faisait sourire, mais qui font un petit peu moins sourire, donc c'est les concours de villages fleuris. C'est vrai qu'on, depuis plusieurs années, on fait une petite manifestation en automne sur le thème justement de la garrigue, de la gestion de ces espaces, de l'utilisation des plantes méditerranéennes dans les jardins publics et privés. Donc on a vraiment une sensibilité par rapport à la petite plantouille qui va justement nous accompagner dans ce traitement des eaux usées. Alors l'assainissement en zone rurale, en fait, c'est une sphère. On l'oublie, mais c'est une affaire récente, hein, puisque je peux témoigner qu'au début des années 70, la mise en place de la première fosse septique dans mon village avait suscité un déplacement d'intérêt des villageois qui se demandaient véritablement qu'est-ce que c'était que cette chose et pourquoi on mettait en place cette chose alors qu'ils avaient plutôt l'habitude de gérer ses besoins de manière beaucoup plus rustique en sollicitant chaque matin de la nature. Et mais petit à petit, bah, cette première fosse septique a fait des petits. Et dans le vieux village historique, la partie concentrée, urbaine, historique, il y avait à l'époque pas grand monde, il y avait 60 habitants. Et dans cette partie historique, donc, elle s'est développée une situation de moindre mal, c'est-à-dire des fosses plus ou moins bien dimensionnées, un puisard plus ou moins bien placé dans une cave ou autre. Et par contre, pour les eaux vannes, et par contre pour les eaux grises, eh bien, un petit réseau de type pluvial qui allait se répandre dans un espace naturel, mais finalement sans trop poser de problèmes, puisqu'il n'y avait pas énormément d'habitants, et que la chance a voulu que le sol, les caractéristiques de sol à l'échelle du vieux village, étaient suffisamment satisfaisantes, compréhensives pour permettre finalement un assainissement à peu près correct. Au fur et à mesure que le village s'est grossi, parce que malgré tout il s'est grossi, donc il s'est construit quelques villes là, bien sûr, il continue à se construire, et classiquement, là, se mettaient en place des fosses septiques et des champs d'épandage, avec bien sûr un contrôle de la DADAS, puis par la suite, puisque l'État, vous le savez, les services de l'État se sont désengagés de tous ces aspects contrôle, et donc ensuite un contrôle aussi bien au niveau de la réception des travaux qu'au niveau du fonctionnement effectué par la mairie. Alors vous imaginez, donc à l'échelle d'un petit village, la possibilité technique d'une équipe municipale de vérifier l'adéquation de la fosse septique par rapport effectivement à la dimension de l'habitation et aux caractéristiques de sol, mais c'est un autre sujet. Et puis bien sûr, la réglementation est venue se mêler à tout cela. En 1992, une certaine loi sur l'eau bien connue est venue imposer, enfin donner une compétence obligatoire aux communes en matière d'assainissement, et a imposé également la définition de zonage d'assainissement. Zonage d'assainissement en demandant de réaliser à l'échelle des collectivités une répartition entre les zones où les terrains présentaient des caractéristiques de sol aptes à l'assainissement, c'est-à-dire des capacités de filtration et d'auto-épuration suffisantes, et puis les zones où c'était inapte, c'est-à-dire des zones relativement imperméables ou au contraire des zones parfaitement rocheuses. Donc, des zonages. On a traîné un petit peu, parce que je ne vous cache pas que bon, le fait de, on savait bien que le fait de mettre en place un assainissement, ben forcément, ça facilite les tentations d'une organisation, donc on y allait doucement. Mais enfin, on a fait le zonage, et ce zonage, bien, il a démontré ce qu'on imaginait bien, c'est-à-dire que on avait des terrains corrects, donc qui effectivement qui permettaient effectivement une épuration satisfaisante, et qu'il y avait des terrains qui étaient absolument impropres, alors qu'il y avait déjà bien sûr des constructions dessus, et qu'on savait un petit peu, parce que forcément il y avait des petits problèmes d'écoulement, il y avait des petits problèmes de voisinage, il y avait des gens qui s'émerveillaient d'avoir trouvé au fond du jardin une source ou un puits réactivé, enfin le bonheur, enfin tout ça était assez cocasse, mais il fallait faire. Une fois qu'on a su ça, là aussi, c'est ce que je disais, c'est que je me suis servi quand même un petit peu de ce zonage pour calmer la pression foncière. C'est un argument. Je ne peux pas vous mettre ces terrains, malgré qu'ils soient dans le poste, je ne peux pas vous le mettre à la construction, puisque, effectivement, le terrain n'est pas apte. Parce que je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner au point de le construire. Le jour où on fera un réseau d'assainissement, une station, ça va s'arranger. Donc c'est vrai que ça nous a quand même. Ça a été un outil de planification, un outil de gestion urbaine, il faut bien dire, ce problème d'assainissement. Alors, au niveau des choix qui sont posés d'ingénieurs, donc on avait réalisé cette carte d'aptitude des sols, la loi nous imposait également, derrière, de réaliser un schéma directeur. Donc on savait maintenant qu'il y avait des terrains bien et des terrains pas bien. On a dit, ben maintenant, il faut que vous décidiez, qu'est-ce que vous allez faire? Où vont passer les réseaux, quel type de traitement vous allez choisir, comment vous allez faire gérer ce système d'assainissement. Donc on s'est appuyé sur un bureau d'études compétent, performant, comme tous les bureaux d'études, et donc on a réalisé un schéma directeur, et on a commencé à se poser des questions sur, bien entendu, la filière d'assainissement. Alors, c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette question de filière, elle est très vite devenue pour nous une question importante. D'une part, bien sûr, par rapport aux contraintes éventuelles du milieu récepteur, on est dans un village de Grèce, mais donc on ne peut pas aller jeter ses eaux, même traitées, même épurées, n'importe où. Quel niveau d'épuration était nécessaire en fonction des exigences du milieu naturel? Quel type de méthode on pouvait solliciter en fonction à la fois des capacités de financement de la mairie, mais en même temps, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la sensibilité particulière du village en matière d'environnement et en matière de protection des milieux. Et donc on a fait tout un ensemble de choix. Je m'en suis fait. Donc tout un ensemble de choix. Le premier choix, c'est de dire, ben, ça c'est classique, hein, c'est de bon sens, on va faire bien sûr la station le plus à l'aval du village, puisque l'idée c'était d'essayer de faire tout fonctionner en gravitaire pour ne pas consommer d'énergie, bien entendu. Donc choix d'un terrain en contrebas du village, premier choix. Deuxième choix, donc recherche d'une filière rustique, faible coût d'entretien, faible coût d'investissement, faible technicité, hein, l'idée, pas vouloir confier l'équipement à un fermier, mais essayer de le gérer nous-mêmes, tout à fait important. Et puis, en accord, bien sûr, cette filière, c'est-à-dire en accord avec donc, nos villages fleuris et nos odes annuelles à la garrigue et au plaisir de la garrigue. Bien sûr, au niveau du réseau, phaser l'opération, puisque vous savez aussi, dans un, dans la mise en place d'un, d'une opération de ce type, c'est pas tellement la station qui coûte cher, c'est le réseau, puisqu'on n'avait pas du tout de réseau d'évacuation, donc il fallait effectivement trancher les routes, dépaver le village, parce que le village, bien sûr, avait été pavé en pierre, enfin, une panique. Donc ça allait nous coûter très très cher. Alors, au niveau des filières, en fait, il y a deux types de procédés. Il y a les procédés qu'on dit intensifs, hein, que vous connaissez principalement. C'est toutes ces procédés qui, en fait, ont pour principe de localiser sur des surfaces réduites et d'intensifier les phénomènes naturels pour permettre de bons niveaux de destruction des matières organiques. Bah, c'est des filières classiques que vous voyez dans les gros villages ou dans les grandes villes, hein, les lits bactériens, les goûts activés, les biofiltrations, surtout les goûts activés, vous savez, ces gros abords en béton qui brassent et qui font du bruit, parfois d'odeur, et c'est principalement des goûts activés. Donc c'est des filières intensives. Bon, c'est vrai que ces filières intensives sont bien adaptées aux grandes agglomérations parce qu'elles ne nécessitent en général pas trop de surface. Mais très vite, elles ne nous ont pas apparu comme la solution la plus pertinente pour les petites collectivités locales qui ne disposent pas de moyens techniques et financiers suffisants pour assurer une gestion satisfaisante de ces équipements un peu sophistiqués malgré tout. Les procédés extensifs, de l'autre côté, vont bien sûr apparaître beaucoup mieux correspondre aux capacités d'intervention d'une petite commune. Alors, quand je dis petite commune, c'est grosso modo c'est entre 500 et 2000 équivalents habitants à peu près. Hein. Au-dessus de 2000 équivalents habitants, ça pose d'autres problèmes de gestion hydraulique et autres. Et ces techniques, en fait, qui sont des techniques en culture fixée, soit sur support solide, soit sur support liquide, il y a deux grandes écoles. Les supports solides, ben, c'est l'infiltration percolation. Les filtres plantés de roseaux à écoulement vertical ou horizontal, ce que je vais présenter dans deux secondes. Et les autres, les procédés extensifs à culture libre, c'est les lagunages, hein, les lagunages classiques, les lagunages à macrophytes, on met des petites plantes dedans, ou les lagunages aérés, c'est-à-dire qu'il y a des gros brasseurs qui flottent sur ces lagunages et qui consomment de l'énergie. Donc, c'est plutôt ces procédés extensifs qui nous ont tout de suite intéressés. On a commencé à regarder, à se balader un petit peu partout. Et finalement, les filtres plantés de roseaux nous sont apparus comme la filière la plus pertinente, la plus performante, bien qu'elle n'était pas très peu, elle n'était pas développée dans le département de l'Hérault, puisque on a déposé le premier dossier. Depuis, il y en a eu d'autres, mais on a déposé le premier dossier d'études techniques dans le département. Je ne sais pas pourquoi, parce que le département de l'Hérault est quand même un département extrêmement dynamique, extrêmement innovant en matière de traitement des eaux usées et d'une manière générale en matière de gestion de la ressource. Puis cette filière, ils étaient un petit peu passés à côté, ils avaient beaucoup développé le lagunage, ils avaient beaucoup développé d'autres techniques, mais pas ces filtres. Et on a été, classiquement, on a été se balader, j'ai été dans le Luberon, voir des syndicats et des communes qui avaient mis en place ce type d'installation. Il y a eu très bon, des échos sympathiques des élus qui géraient ces installations, donc on est revenu avec l'envie de réaliser la même chose. En fait, ces installations sont de même nature que les systèmes d'infiltration percolation, qui sont relativement anciens, hein, pour ceux qui sont du département de l'Hérault. La commune de Montpérou avait mis en place un système d'infiltration percolation il y a presque 20 ans. Donc c'est simplement le principe est d'utiliser des sols artificiels, des sols rapportés de différentes granulométries. De considérer ces sols rapportés comme des réacteurs biologiques parce qu'ils se développent dedans des populations bactériennes qui détruisent la matière organique. Ces filtres, par ailleurs, éliminent très correctement les matières en suspension et on a d'assez bons résultats assez vite en matière de battement. Problème de ces infiltrations percolation, c'est que même en travaillant par bâcher, c'est-à-dire en travaillant de bassin à bassin, bah, au bout d'un moment, ça se colmate, il y a des matières organiques qui sont en amont, il y a du papier de toilette, même déchiqueté, bon, enfin, la vitesse d'infiltration diminue, et au bout d'un moment, ils étaient forcés d'intervenir en raclant pour éliminer cette moquette de surface. Et là, il y a eu donc pas mal de réflexions à ce niveau-là, et c'est le CEMAGREF, il y a quelques années, il y a déjà une vingtaine d'années, le CEMAGREF qui a émis l'hypothèse de compléter ces systèmes d'infiltration par percolation en plantant
des phragmites, des roseaux. Depuis, on a développé ça, et on a fait la même chose avec des bambous et des tas d'autres choses. De planter des phragmites, des roseaux dans ces massifs. Roseaux qui amènent deux améliorations de toit. Simplement un aspect mécanique, c'est-à-dire qu'avec le vent, un aspect mécanique qui limite le colmatage. Le développement des rhizomes limite également le colmatage. Et autour de ces rhizomes, d'où l'appellation de leur technique, enfin des rhizosphères, donc autour de ces rhizomes, des fixations bactériennes supplémentaires qui améliorent aussi le rendement épuratoire. Donc l'avantage de ce type de station, il y a plusieurs avantages, c'est qu'on peut amener les eaux directement sur les stations classiques. En général, il y a une espèce d'appareil qui s'appelle un décanteur digesteur, rien de dire ça, on imagine très bien ce que c'est. Donc, pas besoin des décanteurs digesteurs dans ce type d'installation, on arrive directement sur les bassins, sur les premiers bassins. Pas de gestion des boues, alors je sais pas si vous avez un petit peu, mais le vrai problème actuellement des stations d'épuration, et en particulier des stations à boues activées, c'est le devenir des boues, puisque plus la performance d'une station à boues activées est satisfaisante, plus elle produit des boues par définition. C'est très bien, mais les boues, on ne sait plus quoi en faire. Le monde agricole n'en veut plus, on en brûle. On brûle dans certains incinérateurs, on brûle actuellement des bouts de stations d'épuration, vous imaginez sur quoi. Et donc, l'avantage de ces petites filières, c'est qu'il n'y a pas de gestion de boue. Ces boues sont digérées en surface des bassins et sont éliminées une fois tous les 10 ans lorsqu'on remplace les rhizomes. L'exploitation simple est de très faible coût, puisque, j'en dirai un petit peu plus sur l'exploitation tout à l'heure en présentant les photos. L'emprise au sol est très limitée, 2 mètres carrés par habitant, c'est-à-dire grosso modo 4 fois moins qu'un ménage, je crois à peu près, donc c'est vraiment très, très intéressant. De très bonnes performances, donc très bonne élimination des matières organiques, très bonne élimination des matières en suspension, forcément, puisque ce sont des filtres, et de l'azote, ça se passe très bien. C'est pas très bon pour le phosphore, mais bon, dans nos petits villages, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, il y a, je ne l'ai pas mis là, mais c'est vrai qu'il n'y a quand même pas une très très bonne performance en matière d'élimination des bactériologiques. Et bon, comme à l'aval de mon village, bon, il n'y a pas d'eau de baignade, il n'y a pas de périmètre de protection d'un aquifère, on n'a pas été amené à mettre un abattement, une technique d'abattement supplémentaire au niveau bactériaux. On a juste rajouté à la sortie, vous le verrez tout à l'heure, à la sortie donc, des derniers bassins, une espèce de petite couleuvre naturelle qui permet donc une évacuation beaucoup plus lente de l'eau, donc une petite intervention du soleil, et puis un développement de la végétation qui nous amène quand même un petit développement, un petit abattement bactérien supplémentaire. Mais il aurait fallu en faire pas des kilomètres, mais presque pour que ce soit vraiment très significatif. Enfin, ça rajoute quand même. Bonne intégration paysagère, parce que en fait, vous le verrez sur la photo, parce que c'est des petits bassins qu'on ne voit pas, avec des roseaux qui dépassent, c'est plutôt sympathique. Et puis, pas d'énergie. J'ai pas d'électricité sur la station. J'ai juste, en fonction de la topographie du village, j'ai été forcé de mettre un poste de relevage à un certain endroit. Mais en toute logique, j'aurais pu, si j'avais pu négocier le bon terrain au bon endroit, mais je n'ai pas pu négocier ça avec le propriétaire, puisqu'il voulait des terrains à construire, lui aussi, non, il a fait des terrains à construire. Et donc, j'ai été forcé, c'est classique, j'ai été forcé de mettre la station à un autre petit endroit et j'ai un petit poste de relevage. Mais donc, je n'ai pas d'électricité sur la station. Les contrats d'exploitation sont très simples, puisque, en fait, il y a deux étages de bassins. Ces étages de bassins sont. Chaque étage est composé de sous-bassins. Et on fait une alternance des bâchés hein, pour que, effectivement, la vitesse d'infiltration se conserve, simplement en soulevant une petite vanne. Et en fait, voilà, je vous dis, c'est le technicien, c'est l'agent municipal qui gère la station, c'est le même qui gère nos espaces verts, et c'est vrai qu'il gère ça exactement comme un jardin, puisque c'est vraiment une technique d'irrigation à l'ancienne, c'est la petite brique dans les oasis, c'est tout à fait pareil. On passe deux fois par semaine pour faire ces modifications, ces répartitions d'irrigation. Bon, la première année, il a fallu faire un désherbage, parce que les roseaux n'étaient pas en pleine, ils démarraient à peine. Et puis, certains ne le savent sans aucun doute, avec ce type de station, on a un souci énorme, les tomates. Parce que les tomates, la graine de tomate, effectivement, n'est pas digérée.
Et alors, on se trouve très vite avec des colonies de tomates. Alors, j'aurais pu faire du commerce. Il y avait des, je vais pas oser quand même. Alors, des colonies de tomates épouvantables. Et donc, sans arrêt, à réserver les tomates dans cette installation. Non, mais on parlait des problèmes des. Non, mais on parlait des petits commerces de proximité et des circuits courts. Il y a peut-être quelque chose à faire avec le tomate. Et donc, simplement, un faux cadrage plaisant. Alors, que dire de l'expérience de Mur? Bon, honnêtement, on est vraiment très, très contents. Ça fait plus d'un an maintenant que la station fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. On a de très bons résultats puisqu'on fait quand même plusieurs analyses dans l'année. Bon, Mur, on a eu quelques soucis. Je vous l'ai dit, le foncier, puisque au dernier moment, le propriétaire à qui je voulais acheter a essayé lâchement de me négocier ça à travers des terres constructibles au lieu d'un achat. Donc ça, mais ça, c'était spécifique à Mur. Bon, dès la loi sur l'eau, la mise en place réglementaire, ça a été très très long. Bah, pour vous dire, c'est que, on a traîné un petit peu parce que j'avais besoin de l'occupation des sols, mais on a fait la carte d'aptitude des sols en 1999. Hein. J'ai inauguré la station en 2007, ça a été quand même très long. Hein. Il y a eu des parcours pas tristes, mais enfin on y arrive. Problème de financement, puisque le problème de financement, c'est quand même... grosso modo, pour la première tranche de 250 habitants, je vais rapporter la deuxième tranche à 300-350 habitants dans les années qui viennent. On a quand même, donc la station nous est revenue à 160 000 euros hors taxes, ce qui n'est pas énorme. On en a à peu près, c'est pas nettement moins cher qu'un procédé intensif classique, hein, on est environ à 600-700 euros de par habitant. Par contre, les réseaux, alors que je n'ai fait que la moitié du village, même pas la moitié du village, les réseaux, 350 000 euros, ça coûte effectivement très cher. Donc l'opération totale actuelle s'élève à 550 000 euros, avec des financements bien sûr de l'agence et du conseil général. J'ai pu gratter un peu l'argent du côté de la dotation générale d'équipement de l'État. Enfin, la commune a quand même mis de sa poche 237 000 euros à l'échelle d'une commune de 300 habitants. C'est quand même de très très gros investissements. Alors ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, bien sûr, je me répète, si le choix de l'équipement, si le choix de la filière dépend de la qualité de l'épuration des eaux usées et des exigences de conservation et de protection du milieu récepteur, il y a beaucoup d'autres critères qui interviennent. Au moins à l'échelle d'un village, et qui sont au moins aussi importants, qui sont l'image du village. Pour nous, ça a été ça. Il fallait vraiment que cette filière, cette station, elle corresponde à l'image qu'on se donne, nous, habitants, mais également que les gens extérieurs nous donnent. L'image du village, l'intégration au site. Vous verrez, la station, elle est installée entre une chapelle du XIIe siècle et un mot classé. C'est quand même, c'était pas un parti pris, ça s'est fait comme ça, mais ça passe très bien. Donc, intégration au site. Faible coût de gestion de l'équipement, très faible technicité, ben je vous l'ai dit, nécessaire à la gestion. Faciliter l'extension, il suffit de rajouter les bassins, donc c'est vraiment pas compliqué. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on a associé, de par la loi, on a associé la population, bien sûr, à la réalisation du schéma directeur d'assainissement, puisqu'il y a eu une enquête publique, ça c'est la loi. Mais cette bonne association de la population, ce sentiment de curiosité de la population par rapport à cette filière entre guillemets écologique et le constant rappel que l'on met dans les petites lettres municipales que le bon fonctionnement de ce type de procédé dépend de l'attitude responsable de tout le monde. C'est pas tout à l'égout. Hein. Tout à l'égout, avant, hop là, on se déresponsabilise, on envoie ça à la station qui est en général d'ailleurs juste à la limitrophe avec la commune voisine. Non, c'est pas tout à l'égout, ça reste un investissement collectif qui se gère en faisant attention à ce que l'on rejette, en limitant effectivement la nature des rejets. Et bien tout cela a concouru à une appropriation de l'équipement par les habitants, et incontestablement, c'est pour ça que je l'ai écrit, a consolidé le sentiment d'appartenance au village, et sans être trop pompeux, à des pratiques citoyennes à travers l'assainissement. Je crois qu'on a un petit peu transformé en positif ce qui aurait pu être quelque chose de très négatif et de très lourd à porter. On a vraiment positivé par rapport à ces investissements. Bon, rapidement quelques photos. Donc ça, c'est au moment de la construction. Donc c'est l'étage supérieur est là. Donc là, c'est un bassin, une réserve qui nous permet de travailler par bâchée. Ça, c'est le deuxième étage, vous voyez, donc des bassins en parallèle. Tout simple. Les travaux, alors c'était quand même de très gros travaux de terrassement quand même. Alors la couleuvre dont je vous parlais, hein, la petite couleuvre qui nous a permis, avant d'arriver à un ruisseau, de faire un abattement supplémentaire. Donc les deuxièmes bassins sont là, les premiers sont là-haut, avec les engins de terrassement, on était en cours de travaux. Ça, c'est la plantation des rhizomes, la plantation des... Donc, c'est le premier étage est terminé. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais cette filière fonctionne en aérobie, c'est-à-dire que les bactéries qui fonctionnent ont besoin d'oxygène, et donc ces massifs sont drainés avec des drains particuliers qui permettent une circulation d'air dans les massifs, et l'épandage des effluents se fait avec un système hydraulique un petit peu particulier pour que le débit soit pratiquement le même en début et en fin d'arrivée dans le bassin. Donc là, ils sont en train de planter les rhizomes de bambou. Ça, c'est des photos que j'ai fait hier. Alors, bien sûr, les bambous, en ce moment, ils sont secs. Vous voyez, donc, il y a un effet de photo, là, mais il y a quand même, entre la station et la chapelle, hein, une enseigne, une vigne, qu'on va sans doute acheter, d'ailleurs, une enseigne vigne, bien chère. Donc, vous voyez quelque chose qui est un peu tristounet, parce que c'est grillé, c'est l'hiver. Donc, ça, c'est très vert, c'est très joli. Donc, en sortie dernière étage, on a un espèce de petit, hein, de petit pare-choc, de petit regard qui nous permet à la fois de mesurer la quantité d'eau qui sort et puis de faire les prélèvements. Alors il y a des tas de lombriques, de populations de lombriques qui sont développées et qui sont entraînées. Je ne pensais pas qu'il y en aurait sur ce type de matériaux. Enfin, donc l'eau est parfaitement... ça, c'est dans la couleuvre dont je vous parlais tout à l'heure, mais il s'est développé bien sûr des tas de végétaux participent, qui complètent l'abattement. Et ça, c'est, ben voilà, c'est ce qu'on voit de loin. Hein, la chapelle est là-bas, le bois classé est là, et c'est ce qu'on voit par rapport au village. Voilà. Donc c'est vraiment très peu de choses. Et voilà le schéma de fonctionnement que je vous disais. Donc un grillage, pas de décompteur digesteur, simplement une petite grille pour bloquer d'éventuels éléments un peu gros que les habitants auraient laissé, malgré nos conseils répétés, auraient laissé passer. Les alimentations par bâchée, des filtres vraiment en parallèle. Également ensuite des alimentations partagées sur le deuxième étage. C'est vraiment tout simple de fonctionnement. J'ai pas insisté, c'est assez spectaculaire aussi par rapport à l'infiltration par collation. C'est qu'il n'y a vraiment pas d'odeur, c'est quand même assez incroyable. On peut dire que l'eau ne stagne pas puisqu'il y a une infiltration tout de suite, mais c'est en plus de l'intégration et de la facilité de fonctionnement, c'est vraiment l'absence totale d'odeur. Merci.